Les marchandes de sable, Mouche s'en va en guerre, de Erika Serton. Chapitre 3. Le cadeau de Zinzin. Mouche passa un après-midi fort désagréable, n'osant confier ses ennuis à Jacotte et à Martine, qui, ne pensant plus au trou, ne comprenait pas son attitude soucieuse. Le soir, les fillettes allèrent rôder du côté de la colonie de vacances et virent de loin Polo et ses amis jouant comme à l'ordinaire. Ils étaient tout à fait propres et ne paraissaient pas avoir subi le moindre ennui. Mouche n'en croyait pas ses yeux et restait anxieuse, car pendant ce temps-là, la rivière de boue coulait toujours dans ce maudit ravin qui, hélas, avait cessé d'être sec. Le lendemain matin, s'étant encore réveillée de très bonne heure, Mouche n'y tint plus, et sous prétexte d'une course au village, fila vers la colline. Elle avait peur que la boue eût inondé quelques maisons ou quelques jardins sur son passage. Elle coupa au plus court, car elle avait remarqué la veille des troncs plus clairs parmi les autres arbres qui étaient près du fameux trou. Une source parut à sa droite. Ce devait être celle où s'étaient lavés ses pauvres camarades du camp de vacances. Voyant l'eau limpide, Mouche regretta que celle du ravin ne fût pas aussi claire. Ce n'aurait été sans doute que demi-mal. Tenant la laisse de couic au plus court, elle franchit le dernier repli de terrain et se trouva devant l'endroit de l'inondation. Mais elle poussa un cri de surprise et se frotta les yeux pour être bien sûre qu'elle ne se trompait pas. Il n'y avait plus d'eau boueuse. Le ravin était redevenu parfaitement sec. Quant au trou, il avait disparu. Pas la plus petite trace de la moindre coulée de boue. Les cailloux qui pavaient le ravin étaient un peu plus bruns qu'auparavant, mais cela ne faisait aucune différence marquante. L'orifice était non seulement complètement rebouché, mais la paroi contre le chemin creux était redevenue aussi lisse qu'avant le passage de Quick. Si c'est Polo et les autres qui ont arrangé ça, c'est formidable, s'écria-t-elle. Quant à Quick, il s'avança sans empressement vers son ancien chantier, dressa légèrement les oreilles, puis se retourna comme si ce n'était vraiment plus la peine d'y faire attention. La terre rejetée par les pattes du chien, puis par les coups de piolet et de pelle, avait été balayée. Il restait encore de petites traînées sur le sol, mais sans importance. Quant aux branches que les fillettes avaient arrachées pour masquer l'endroit, elles avaient été rejetées de l'autre côté, sur le versant, en déclivité. Mais de là à obstruer une ouverture semblable, c'était une autre histoire. Et une histoire qu'il était sans doute prudent de passer sous silence, même si le mystère demeurait entier. Et puis, après tout, cela n'avait probablement fait de mal à personne. Elle en serait quitte pour mieux surveiller Quick quand elle se promènerait. L'esprit beaucoup moins soucieux, elle redescendit vers le village. Comme elle approchait de la route, Quick, à qui elle avait rendu sa liberté, partit en aboyant. Mouche allait le rappeler quand elle aperçut Zinzin assis sur de la mousse et adossé à un gros chêne. Il sourit à la fillette en caressant le chien qui lui faisait fête. « Le pauvre Zinzin n'a pas encore de sucre pour toutou aujourd'hui, » dit l'innocent. « Zinzin n'a pas de chance, personne ne veut lui en donner. »« Voyons, » fit Mouche pour le consoler, « tu te montes la tête pour des riens. »« Non, Zinzin sait ce qu'il dit. Tiens, » continua-t-il en regardant la main de la fillette. « Qu'est-ce que ce morceau de bois ?» C'est une petite assiette que m'ont fabriquée les bûcherons. Pas joli le cadeau, pas joli. Zinzin a beaucoup mieux pour petite demoiselle. Ça c'est pour toi, je te le donne. Il tira de dessous sa veste qu'il avait posée à côté de lui, une sorte de bol qui n'avait rien de beau ni d'engageant. On eût dit de la terre cuite. L'innocent le lui tendit d'un air triomphant. Voilà, c'est un bol. Bien plus pratique que le rond de bois pour faire une assiette. C'est creux, ça tient quelque chose. « Que veux-tu que j'en fasse? Garde-le, il te servira sûrement beaucoup plus qu'à moi. »« Non, pauvre Zinzin doit aller travailler, pas le droit de s'amuser. Même avec ça, prends-le, c'est bien pour faire des pâtés ou un pot de fleurs. Zinzin ne veut pas le garder. » Tantôt le père Bigot a vu Zinzin jouer avec, il a bien grondé encore. Il est méchant, ils sont tous méchants avec moi. Il n'y a que Toutou qui est gentil, mon ami Toutou. Garde le bol, mais je t'en prie, petite damsel, ne dis pas que c'est Zinzin qui te l'a donné. » À personne. On croirait que je m'amuse avec toi et avec Toutou au lieu de porter les rondins. On me battrait encore. on me chasserait. Quand Mouche eut accepté le bol pour lui faire plaisir, l'innocence se prit à sangloter. Ne dis pas que c'est moi qui te l'ai donné, insista-t-il. Tu promets ? Je ne comprends pas pourquoi tu as tellement peur qu'on le sache. Oh si, tous les méchants. Tu promets ? Tu jures ? Mouche était émue de la tristesse du pauvre R. Elle prit le bol en songeant que l'innocent ferait mieux de l'ajouter au tas de débris qui encombrait la porte de sa cabane. Il n'aurait pas dépareillé la collection. « Eh bien oui, fit-elle, je te le promets, n'aie pas peur. Où as-tu trouvé cet ustensile ? » Là-bas, par là-bas. Mais j'avais du bois à porter, j'ai joué avec le bol, j'ai été battue. Oh, j'ai encore mal dans le dos. Emporte-le, cache-le bien, tu promets ? » Je t'ai déjà dit oui, je le rangerai avec la petite assiette. « Non, c'est l'assiette des vilains, jette-la vite, garde le bol, garde-le bien. » « C'est entendu, ne pleure plus et va à ton chantier, surtout si on t'attend. Au revoir, Zinzin. » L'innocent se leva et se dirigea lentement vers la colline. Mouche s'en alla en haussant les épaules. Le pauvre, il croit que c'est un grand cadeau. Que vais-je en faire ? La fillette revint à la maison des Cortisols. Il n'y avait personne. Les enfants n'étaient plus là et leur mère devait être au marché. Mouche pensa d'abord à déposer le bol sur un meuble de l'entrée, mais tout était si propre, si soigné qu'elle n'osa pas y ajouter le cadeau de Zinzin. D'ailleurs, il y avait déjà un vase à fleurs, lequel était vide. « Non, se dit-elle, ce bol est trop laid pour qu'on mette des fleurs dedans. Cela ferait sûrement crier Madame Cortisol. » Montant à sa chambre, elle chercha un endroit où elle pourrait caser le vilain présent de l'innocent. Elle finit par le glisser sous son lit avec l'assiette grossière. Au moins là, on ne les verrait pas. Sur ces entrefaites, Jacotte va la chercher. « Le déjeuner est servi, Mouche !» lui dit-elle. On passa à table. Le brigadier, si gai à l'ordinaire, était d'humeur sombre. À sa femme, qui lui en demandait la raison, il ne répondit que par monosyllabes. Et comme elle insistait, il finit par lui dire « Ne t'inquiète pas, je suis ennuyé en effet, mais c'est une question de service. »« Quoi, encore des ennuis avec le capitaine au sujet du téléphone ?»« Non, c'est bien autre chose. Et puis je n'ai plus faim, je retourne au bureau. À ce soir !» Comme Mouche se préoccupait de ce qui pouvait ennuyer le gendarme, Jacotte lui répondit. C'est souvent comme ça, ne te fais pas de mauvais sang. Papa est bourru, mais le lendemain, quand il a dormi, il redevient tout de suite de bonne humeur. Mon mari est très strict sur les questions de service, dit Marie Cortisol pour l'excuser. Jacotte et Martine devant aller voir leur institutrice, Mouche les accompagna jusqu'à l'école qui était sur la place à côté de la mairie. Tous les commerçants lui sourirent et Quick gagna quelques friandises au passage. Se retrouvant seule, Mouche profita de l'occasion pour pousser jusqu'à la colonie de vacances. Elle saurait au moins comment ses amis avaient pu sécher leurs costumes et si c'était eux qui avaient rebouché le trou en faisant disparaître toutes les traces. Elle demanda à la gardienne de les appeler et Polo arriva avec Christophe. Tous deux avaient l'air satisfaits et souriants. C'était de bon augure. Tout s'est bien passé, expliqua Christophe. Nous avons pu nous nettoyer complètement à la source, puis nous avons rincé nos affaires et les avons mises à chasser dans la prairie. Il y avait un beau soleil. Nous avons allumé un feu tout prêt pour le déjeuner. 2 heures plus tard, tout était sec. Nous nous sommes rhabillés, car nous n'avions que nos petits caleçons, puis revenus ici pour nous changer quand même. Personne ne s'est aperçu qu'il nous était arrivé quelque chose. L'ennuyeux, fit alors Polo, c'est qu'elle a commencé à couler dans le ravin l'eau dégoûtante. En as-tu entendu parler, Mouche ? Soyez tranquille à ce sujet. Je suis montée ce matin pour voir les dégâts. Il n'y en avait plus. Ni eau, ni rien. Pas la moindre trace. Et le plus fort, c'est que le trou que vous aviez agrandi était si bien rebouché qu'il n'était pas visible. Ce sont probablement les bûcherons. Non, je suis allée les voir. Ils ne savent rien de cette histoire. Ça, c'est formidable, s'extasia Alex. Il faut être rudement malin pourtant pour arrêter toute cette catastrophe. Pas forcément, fit Christophe après avoir réfléchi. Il s'agit certainement d'une source souterraine, et quelqu'un qui la connaissait a pu la détourner par ailleurs. Mais cela prouve justement que quelqu'un l'a vue ou a été prévenu, et sait à quoi s'en tenir. Enfin, reprit Polo, pas très tranquille, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Nous dire ? Répliqua Mouche. Je ne sais pas trop, mais dis donc, tu n'as jamais reçu de fessée ? Ça va, ne parlons pas de malheur. Après tout, nous n'avons qu'à nous taire. Quant à cela, tu peux être tranquille, affirma Christophe. « Dites, Mouche, vous n'en avez pas parlé. »« Bien sûr que non. Pas folle, la guêpe. »« On ne sait rien au village. Rien du tout. »« Alors laissons courir et rentrer tranquillement chez vous. » Tant qu'on ne nous dira rien, ça ira tout seul. C'est vrai, ajouta Polo. Nous n'avons qu'à nier. Moi, on parle. Tu as enfin compris que le fait de se taire t'évite de mentir ? Fit Mouche en souriant. Bon, qu'est-ce que tu vas encore chercher là ? Nous sommes en vacances. La fillette, en quittant le camp, fit une longue promenade jusqu'au bout de la grande vallée et ne revint au village qu'à la tombée de la nuit. Le dîner fut plus morne encore que le déjeuner. Cortisol ne desserra pas les dents, sauf pour faire des observations assez injustes à ses filles. Sa femme ne parla pas davantage et ce fut pour la maisonnée l'occasion d'aller au lit beaucoup plus tôt qu'à l'ordinaire. Et Mouche se demandait avec inquiétude si l'histoire de la coulée de boue n'était pas la cause de la mauvaise humeur du brigadier de gendarmerie.
Et les yeux dans les yeux, nous dansions.